franceinter.fr.
Il est 8h33. La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
La présidentielle, on est déjà dans l'après. Pour preuve.
Pour preuve, la une de l'Humanité guerrière ce matin. La première cible du président Macron, c'est vous, point d'exclamation, et photomontage à l'appui avec un code du travail criblé de balles et poignardé. Vous avez détesté le dispositif El Khomri, prévient Jean-Emmanuel Ducoing dans son édito. Vous allez honnir ce que prépare l'élu de la finance, l'inversion généralisée de la hiérarchie des normes, la priorité absolue laissée à la négociation par l'entreprise, etc. Le futur hôte de l'Élysée compte aller beaucoup plus loin dans la casse et très vite, dit-il. Bref, l'UMA en guerre qui appelle à élire un maximum de députés de résistance contre ce monarque de 39 ans et sa loi El Khomri XXL, comme il l'appelle, afin, dit-il, de contrer la régression sociale. Mais alors, quel député sous quelle étiquette ? France insoumise ou parti communiste ? Ben là, l'Humanité a des pudeurs de gazelle pour ne pas évoquer l'embrouillamini entre les deux partis dans son édition de ce matin.
Le coup d'envoi des législatives qu'on retrouve dans toute la presse ce matin.
Avec cette une de Libération dont chacun appréciera ou pas l'élégance, un grand coup dans les partis. Partis sans eux, vous l'aurez compris, pour dire le déchirement du Parti Socialiste comme de Les Républicains après l'élection d'Emmanuel Macron. Droite et gauche classique pourraient bien se retrouver au balcon de l'histoire politique, explique Laurent Geoffrin, avec un axe droite-gauche supplanté par la division ouverture-fermeture, Europe-Nation, ou même par l'affrontement entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Sud-Ouest décrit le Palais Bourbon façon puzzle et série les questions qui se posent au coup d'envoi de ces législatives où l'on se retrouve en présence de quatre forces politiques grosso modo égales. En marche, arrière, accéléré ou ralenti, se demande le journal. Normalement, l'une des règles de la Ve République veut que le président élu s'appuie sur une majorité donnée par des électeurs cohérents, mais cette fois, Macron a dynamité les codes. Du coup, comment les Français vont-ils appréhender ce nouveau champ politique totalement inconnu ? Vont-ils faire confiance à des candidats novices, ces candidats Internet, face à ceux qui sont déjà bien implantés ? Mystère. Autre inconnu, le grand écart des ex-grands partis de gouvernement, si un juppéiste, au hasard, le maire du Havre, Édouard Philippe, devait être nommé à Matignon, cela parachèverait l'implosion des Républicains. Quant au PS, il est entré en cohabitation avec lui-même, comme disait joliment Le Monde hier. Enfin, la cohabitation, c'était avant les déclarations de Manuel Valls ce matin. On a peut-être fait un pas de plus vers l'explosion. Jean-Luc Mélenchon, lui, rêve donc de transformer ses 7 millions d'électeurs du premier tour de la présidentielle en autant de voix pour des députés et se placer en premier des opposants. Mais son intransigeance vis-à-vis du Parti communiste pourrait coûter cher à ses candidats. Alors reste l'inconnu FN. Il s'est renforcé dans ses bastions ruraux. La candidate est même arrivée en tête dimanche dans 45 circonscriptions et a obtenu plus de 45% des voix dans 66 autres. Mais il pourrait être piégé par le scrutin uninominal à deux tours.
Un Front National qui connaît des lendemains de second tour difficiles.
Au FN, l'heure des règlements de compte, nous raconte Dominique Albertini dans Libération ce matin. Ce sont des mots que l'on n'avait jamais entendus au Front National, des mots durs, désabusés, dont Marine Le Pen est la cible. Le soir de sa défaite, elle esquissait quelques pas de danse, mais ses soutiens les plus proches ont encore le débat de l'entre-deux tours en travers de la gorge. On s'est senti trahi, accuse un jeune frontiste. On a découvert qu'elle n'a pas seulement un problème de ligne, mais de mentalité. Elle n'est pas capable de se contraindre au nom d'impératifs politiques, dit un autre. Résultat, les dagues sont sorties. Alors c'est d'abord l'entourage de Marine Le Pen qui est visé, Florian Philippot et le beau-frère de la candidate, Philippe Olivier. C'est la ligne politique choisie qui est dénoncée. Le ni droite ni gauche, quand l'étude du report de voix prouve que c'est au peuple de droite qu'il faut s'adresser, c'est le fonctionnement du parti qui est montré du doigt, trop centralisé, trop sclérosé. Mais en définitive, c'est elle qui est dans le viseur et c'est nouveau. Un vieux compagnon de route du FN ose même écrire sur son blog « Elle peut sans doute se maintenir, Marine Le Pen, mais ce serait un cycle pour rien, un cycle où ni les cadres, ni les militants, ni les électeurs ne croiront plus la victoire possible. Un élu va plus loin encore. » L'élection d'un type de 39 ans rend tout le monde vieux, sauf Marion Maréchal Le Pen. Elle est pour l'union des droites et n'est impliquée, elle, dans aucune affaire judiciaire. Marion Maréchal-Le Pen tentée par un retrait précoce de la vie politique qui reste à convaincre de se sacrifier au nom de l'intérêt supérieur de la cause frontiste, conclut Albertini. Reste aussi à convaincre Marine Le Pen de passer la main, mais au moins tout ça reste en famille au FN.
On termine avec le jour d'après pour le président.
Et ouais, même pour les deux, François Hollande, qu'il est encore président jusqu'au 14 mai. Alors de quoi seront faits les premiers jours du reste de sa vie politique, se demande Libération. D'un engagement, semble-t-il, dans le combat des législatives, justement. Il veut préserver le PS, éviter qu'il ne disparaisse. Il pourrait même aller soutenir certains candidats sur le terrain après son départ de l'Élysée. D'ici là, un problème plus urgent se pose à lui. Il est confié par son ami Jean-Pierre Jouyet à Paris Match. Mais où va-t-il dormir? Il n'a même pas de logement, s'alarme le secrétaire général de l'Élysée. Paris Match, qui propose dès ce matin un numéro qui se veut collector du nouveau président, cette fois, l'espoir a gagné, titre l'hebdo. Si par hasard, vous avez raté un épisode de la vie d'Emmanuel Macron, c'est pour vous 60 pages de photos et de témoignages dithyrambiques, du bébé bouclé qui fait chavirer les grandes personnes au petit prince chez les jésuites, les légendes ne sont pas de moi, à Macron, à l'ENA, au Nigeria, chez Rothschild, dans un drame shakespearien avec Hollande, dans son face-à-face avec le fou de gueux catalan Valls, Macron et Brigitte, bien sûr, Macron et son clan au soir de la victoire, vous saurez tout. J'ai même failli oublier, vous parler de sa grand-mère, Manette, dont personne en France ne peut plus ignorer qu'elle lui faisait écouter du Chopin en récitant du Racine.
On a sa grand-mère, mais on n'a jamais ses parents.
Rarement. On les a vus, ils sont sur les photos, sa maman et son papa sont sur les photos de Paris Match ce matin. Un président qui succède à l'autre, mais qui aura au minimum une communication très différente, nous dit l'Opinion ce matin. Nathalie Segone explique en quoi la cérémonie du Louvre dimanche soir a marqué la volonté d'inventer une nouvelle écriture médiatique. On va revenir à une grammaire plus économe, plus substantielle, promet un de ses conseillers. Ce sera la fin de la com du micro tendu. Fini donc les petits apartés du président devant les caméras de BFM. Le président devrait, paraît-il, revenir à une forme de retrait médiatique, économie de la parole. Mais pour redonner du sens à tout cela, promet le même conseiller, on n'a donc ni les candidats, ni le nom du Premier ministre, ni toutes les réponses sur la méthode sociale d'Emmanuel Macron, ordonnance ou pas, mais au moins on a la promesse de redonner du sens à tout cela. C'est exactement ce que vous réclamiez il y a quelques instants, Daniel Cohn-Bendit.
Eh oui.
Merci Hélène Jouan pour la revue de presse.